Merci de nous avoir rejoints en cette fin d'après-midi sur Beurre FM. Il est 18h.
18h, 20h, Fou de sport. Avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche 18h, 20h sur l'antenne de Beurre FM. Beurre FM, bon, vous l'avez entendu, le mot FM avec la vingtaine de fréquences, plus bien sûr le DAB+, qui arrive de plus en plus sur l'ensemble des régions de France, sans oublier le web et également tous nos auditeurs qui, à travers le monde, Amérique du Nord, Océan, Indien, etc. Je sais que nous avons un public qui est très très vaste et nous sommes très heureux de vous présenter cette émission aujourd'hui. Nous allons traiter de sujets très importants à la fois sur le déroulé de cette semaine qui a été très très active sur le front du foot, comme on dit dans le jargon, mais également en deuxième heure, on va aborder un sujet très sensible puisque c'est un problème sociétal, c'est un problème lié au racisme aujourd'hui dans les petits clubs, surtout dans les petites structures, puisque tout à l'heure à 19h nous aurons comme invité des responsables du club de Sartrouville qui seront avec nous sur ce plateau avec Ismaël Badawi. En attendant, pour démarrer cette soirée et avec une actualité très chargée, je vais accueillir ceux qui vont passer ces 2 heures avec moi
jusqu'à 20h. Sur Beurre FM.
Bon, voilà, il est très rapide, hein, c'est la nouvelle génération. Salut, Fadil.
Salut, Mohand, salut à tous.
Présent encore ce dimanche, notre ami Boula. Bonsoir, Boula, comment vas-tu?
Salam à tout le monde. Ça va très bien, alhamdoulilah. À part, en ce moment, c'est rempli de. Dans le monde du football, c'est un peu assez spécial.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
C'est très, 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 très important. Ce qui m'importe, c'est de respecter l'un et l'autre et les valeurs religieuses de l'un et de l'autre.
Ben, on y revient justement sur cette affaire du Ramadan avec notamment Galtier par rapport aux joueurs de Nice. Hein, bien sûr. C'est l'affaire qui a été sortie par un certain Julien Fournier. On est d'accord. Bon, allez, c'est parti.
Jusqu'à 20h. Fou de sport. Sur Beurre FM.
Bon, alors, comme le veut la tradition, on va commencer par un sujet très chaud. Eh bien, c'est l'histoire de Youssef Belaïli, qui a rompu son contrat avec le stade brestois. Derrière ça, Brest qui perd 100 000 abonnés sur Facebook. Et pourtant, il y a bel et bien un problème. Youssef Belaïli, après l'échec de Angers, voilà l'échec à Brest. Ben, je vous pose la question, est-ce que vraiment ce joueur est fait pour jouer en Europe? Ben, moi, aujourd'hui, je me pose des questions. Est-ce qu'aussi Jamel Belmadi, qui l'a tellement protégé, parce qu'il a espéré, Jamel a espéré jusqu'à la dernière minute, que Youssef enfin se stabilise dans un club européen. Ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il va le laisser continuer comme ça en équipe nationale? Je vais vous poser la question, mais d'abord, votre première réaction sur cette affaire Belaïli, plutôt fin de contrat comme ça, brutal. Oui, allez-y.
Bon, en tout cas, pour ma part, je suis un peu étonné par rapport à la période qu'il a passée à Brest. Je pensais que le fait qu'il prolonge son contrat, il allait rester pour une bonne durée à Brest. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Pour X raisons, pour les bonnes raisons, je pense qu'on ne les connaît pas pour l'instant. Ça m'a vraiment étonné du fait que Belaïli quitte Brest, parce qu'au début, il disait qu'il se sentait bien. Et ensuite, le fait qu'il y a ces informations qui sont sorties sur le quotidien Telegram, sur le site Telegram. Et malheureusement, ce que je trouve vraiment dommage de la part de Brest aussi, parce qu'ils ne l'ont pas défendu, ils n'ont pas démenti. Il n'y a aucun communiqué de la part de l'attaché de presse de Brest que j'ai contacté personnellement et qui ne répond pas. Je voulais quand même connaître les dessous de cette histoire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'imagine qu'il y a eu des dessous. Youssef Belaïli, pour ma part, j'aurais bien aimé qu'il reste à Brest parce qu'il a toujours souhaité évoluer en Europe, mais c'est pas avec une mentalité pareille qu'on reste en Europe.
Ouais, merci. Ça, j'apprécie cette dernière phrase. Boula.
Moi aussi, pareil, de même, Fodil, il a bien fini par. Est-ce qu'il a la mentalité pour jouer en Europe? Est-ce qu'il a l'éducation et les règles et les valeurs de travail pour jouer en Europe? Maintenant, le problème de Youssef, c'est que c'est. Je pense que. Avec Jamel, je pense que c'est Jamel qui a été le chercher.
Ah oui, bien sûr, qui a été le chercher.
Dans le ruisseau. Il était vraiment très très mal. Il venait d'une sanction. Il fallait que Jamel, je pense qu'a été avec son potentiel qualité au niveau footballeur. Je pense qu'il a su le gérer sur des semaines, sur des compétitions de 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Mais je pense que dans une équipe en Europe, je pense que en termes d'image, je pense pas qu'aujourd'hui un directeur sportif ou un président pourra demander les services de Belali vis-à-vis d'un collectif et d'un groupe, ou qu'à un moment donné tu sens qu'il est pas d'accord dans le système s'il est remplaçant. Je pense que c'est plus son côté remplaçant qui a dérangé, et qu'à un moment donné il veut imposer des choses. Et il sait pas que quand je vois Slimani qui est arrivé en France, je pense que on peut prendre référence à Slimani, parce que il a été au Sporting, et au Sporting ça a été un joueur exemplaire. Il a été transféré pour 30 millions d'euros. Bon, après il a atterri dans il y a eu un mouvement de transfert où à un moment donné c'était plus un business que un choix sportif, mais lui il le savait pas. Mais ça reste quand même quelqu'un qui a des valeurs, de règles, d'éducation. Slimani, il nous le montre aujourd'hui, et il nous le montre dans tous les clubs français. On n'a jamais entendu quoi que ce soit au niveau de son image dans les clubs. Et je pense que Youssef est pas. Et, c'est dommage, parce qu'il est pas, à un moment donné, il peut s'amuser, à l'extérieur. Mais le problème, c'est que en termes d'image dans un com, ça peut pas passer.
Ouais. Et justement, parce que moi, on le voit, Slimani, c'est un garçon qui a refusé d'aller au Moyen-Orient. Il voulait vraiment faire carrière en Europe. Il le démontre d'ailleurs aujourd'hui. Brest reconnaît que c'est une bonne pioche, c'est Slimani.
Ben Brest, ils ont besoin de Slimani, parce que c'est un effectif qui est très jeune, et ils ont besoin de l'expérience d'un Slimani qui connaît qui a connu les plus grands championnats, que ce soit en Angleterre, en Portugal, en France, et même en Algérie. Quand il était en Algérie, il était irréprochable. Et surtout, Slimani, c'est quelqu'un qui est vraiment, comme il l'a dit Boula, c'est quelqu'un qui a un profil et qui respecte le groupe, surtout qui ne cause aucun de problème, même quand il était à Lyon, alors qu'il était remplaçant et que il avait une concurrence avec Dembélé qui n'était pas en forme, mais il ne s'est jamais plaint par rapport à sa situation. Et même à Brest, il a raté un pénalty, mais il a continué à bosser. Aujourd'hui, on le voit décisif avec Brest, il a inscrit un super but. En plus, ce n'est pas avec son pied de prédilection, c'est avec deuxième but consécutif avec son pied gauche. Mais Belaïli, moi, ce que je ne comprends pas, il me fait penser à la carrière de Balotelli. Belaïli, c'est un talent brut, c'est un joueur qui a besoin d'être protégé. Malheureusement, il ne sait pas gérer sa carrière.
C'est un talent gâché.
Je ne sais pas, parce que pour l'instant, sa carrière, elle continue. Mais comme l'a dit Boula tout à l'heure, il s'est tiré une balle dans la jambe, et je vois mal un club européen solliciter ses services. Et d'après les médias algériens, il a été contacté par le Raja Casablanca et un club en Arabie Saoudite. Et aussi, il a été décrié par la presse qatari, où ils sont contre le fait qu'il revienne par rapport à sa déclaration.
Oui, quand il avait dit
c'est leur argent qui me manque.
Ouais, voilà. Mais après, quand tu vois un joueur comme Slimani et Youssef Belali, je pense qu'on peut dire merci à Roland Courbis, parce que c'est Roland Courbis qui a tout fait pour que ces joueurs franco-algériens, et Roland connaît bien le franco-algérien.
Absolument.
Il a travaillé en Algérie.
Je pense que c'est lui qui a fait en sorte que qu'il soit à Brest. A tout fait pour que soit à Brest. Et je pense que, comme Jamel Belhamri, quand il était à Lyon aussi, c'était encore Roland Courbis. Mmh. On a la chance d'avoir quand même un qui n'a pas un statut d'agent, mais dans la com et dans l'image, il rend beaucoup service à tous ces franco-algériens qui. Et l'aura que Roland a, et c'est pour ça que les joueurs, ils sont un petit. C'est pour ça qu'ils sont en France.
Et est-ce que vous pensez aujourd'hui que, au vu de un petit peu de ce comportement, une nouvelle fois, Jamel Belmadi va lui faire confiance, va le rappeler en sélection, parce qu'aujourd'hui, il n'a plus de club, c'est clair et net.
N'oublions pas que Jamel Belmadi l'a menacé, mais c'est pas qu'il l'a menacé, il l'a prévenu en conférence de presse. En cas où cette histoire se confirme, il ne sera plus le bienvenu en équipe nationale. Ouais. Et ça m'étonnerait qu'il soit convoqué d'ici là, parce que bon, il y a le mercato hivernal qui arrive, ça veut dire qu'il pourra trouver un club où il peut signer actuellement en Arabie Saoudite, mais ça m'étonnerait que Jamel Belmadi le reprenne s'il n'est pas en forme. Est-ce que c'est pas aussi la période où il faut lancer un Adam Ounes qui est rentré sur le flanc gauche, il a fait du mal à la défense nigérienne.
Le cas de Jamel, le problème c'est qu'il est sur un effectif au niveau potentiel. Il n'a pas le potentiel nécessaire pour pouvoir faire des choix très, très stricts. On le voit sur le joueur de l'or. Il fait revenir avec. Il refuse complètement l'équipe nationale.
Oui,
quand tu refuses l'équipe nationale, je pense que tu es là, tu prépares ta Coupe du Monde, tu veux te qualifier en Coupe du Monde. Le mec, il nous lâche entre les mains. Là, Jamel, je pense qu'il lui donne une deuxième chance. Parce que je pense que tout être humain mérite une deuxième chance. Mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que si Jamel il avait un potentiel attaquant du niveau de Dolor,
je pense pas qu'il l'aurait sollicité.
Je pense pas qu'il l'aurait sollicité. Ouais. Et Jamel, il a un but, c'est réussir avec l'équipe nationale et d'essayer de gérer ces situations. On le voit, un joueur comme Ben Taleb. Tu prends Ben Taleb qui était vraiment pareil au niveau de l'équipe nationale. Il le fait revenir parce que bon, il sait très bien que le potentiel de Ben Taleb à Angers et le potentiel de Ben Taleb à un moment donné. Et on voit aussi sur Raïs Mboli, il a trouvé un club de D2. Je pense que ça sera un des numéro 1 en gardien de but en équipe d'Algérie, Raïs. Même s'il est en D2, je pense que c'est un joueur qui a.
C'est un poste à part.
C'est un poste à part, mais humainement. Et au niveau qualité de Raïs, il a toujours répondu présent avec l'équipe nationale. Ouais. Il a toujours été truc. Et c'est ce qui fait Jamel. Je pense qu'il a une gestion qui est dans l'intérêt de l'équipe nationale. Il veut pas à un moment donné être trop. Parce que moi, je pense que vu ce qu'il a fait avec Dolor et ce qu'il a fait et connaissant un peu Jamel, c'est quelqu'un qui a du caractère et qui est intransigeant sur une façon de travailler. Je pense qu'il a quand même, il reste quand même quelqu'un de très intelligent parce que le choix qu'il fait de faire venir de l'or, il sent avec les performances de l'or, c'est l'intérêt de l'équipe nationale qui regarde. Il regarde pas, il va pas piocher dans le comportement.
Oui, et justement, vous l'après, cette histoire, je reviens à cette histoire d'Andy de l'or. Finalement, après les déclarations de Julien Fournier, ça fait tomber à l'eau quasiment tout l'argumentaire d'Andy de l'or.
Je veux dire Julien quand il parle, moi connaissant bien Julien, il y a un truc qu'il faut voir, c'est que Julien dans sa façon de travailler dans le milieu du football, il regarde pas si t'es religieux, il regarde pas si t'es pratiquant, et voilà, il veut prendre le footballeur parce qu'il le sait très bien Julien qu'il est en face de joueurs algériens, parce que quand tu prends un joueur comme Amine Gouiri ou quand tu prends des joueurs comme Boudaoui, ils font la prière, ils font le Ramadan, Julien accepte de faire venir. Et quand tu regardes bien les choix de Galtier avec Amine, il y a eu un gros problème. Maintenant le problème Galtier, c'est vrai qu'on n'a pas toutes les écoutes, on a juste foot qui dit. Mais moi, à mon avis, je pense qu'il l'a dit. Mais le problème du Ramadan dans les clubs, je pense que la Fédé.
On en parle depuis plusieurs années de toute façon.
Non, mais la fédération ou la Ligue, par rapport les joueurs qui font le Ramadan dans le championnat de France. Il n'y a jamais eu une petite discussion sur le Ramadan pour trouver le respect des gens qui ont des valeurs religieuses. Ils n'ont pas fait appel à des imams. Comment faire pour en période de Ramadan, est-ce que tu peux autoriser un joueur à manger, est-ce qu'ils peuvent rattraper? Après, c'est une grosse discussion. Le titre Ramadan, c'est quand même quelque chose de personnel parce et de religieux.
Parce que la rupture du jeûne a lieu le soir et que le jour même du match, je pense que là-dessus, il y a un processus, il y a une jurisprudence. Moi, je sais que souvent, quand il y a un joueur, le jour même du match, qui s'alimente, bien sûr qu'il ne peut pas jouer sans s'alimenter. Bon, il y a une exception, on l'a vu sur les terrains anglais avec des joueurs africains où l'arbitre arrête la rencontre.
C'est Fofana, oui.
Pendant 30 secondes, histoire que la personne prenne quelque chose dans la bouche. Ça, c'était un exemple extraordinaire de la part des Anglais. Mais nous sommes en France, et en France, il y a quand même ces réticences religieuses. Et ça, on le sait toujours.
Oui, mais on le sait, mais quand tu regardes aussi, quand tu regardes la banlieue parisienne, quand tu regardes dans le championnat amateur, aujourd'hui, quand tu as un ou deux joueurs, ça peut. Mais le problème, c'est quand tu as 7-8 joueurs.
Ouais.
Et une fois, c'est un franco-algérien comme entraîneur. Il me dit, ouais, mais Boula, il est fort, le président de Liverpool, l'entraîneur de Liverpool, il en a deux. Moi, j'en ai 8. J'ai perdu, pendant le ramadan, j'ai perdu près de 12 points sur 20. Ouais. Alors, tu vois, il y a des calculs qui sont faits, même des franco-entraîneurs algériens. Ils sont à l'encontre de ça. Et puis, je pense que ça peut se trouver parce que quand tu regardes Boudaoui pendant le ramadan,
oui,
c'est lui qui a le meilleur test physique.
Oui, c'est vrai.
C'est lui qui a le meilleur test physique. Oui. On le voit. Mais quand tu regardes, quand il y avait Patrick Vieira, tu sentais pas ces problèmes-là.
Non, jamais.
Tu sentais pas ces problèmes-là. Ah. Et le problème, c'est quand t'as pas de résultat, l'entraîneur, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il se jette sur le ramadan.
Oui.
Et ça.
C'est l'excuse. Oui, bien sûr.
Ouais, ouais. Il essaie de trouver des excuses. Quand il est dans l'ascenseur avec Gervais Martel dans l'ascenseur qui dit. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? C'est normal qu'il perd à Lens. Il m'a dit que j'ai la moitié de l'équipe qui font ramadan. Mais après, le problème, c'est que ça se dit, ça ouais, sait. Ouais. Et Julien, quand il parle, connaissant Julien, je sais que Julien, il parle pas beaucoup, mais le fait qu'il parle, il veut rendre des comptes. Il veut. Je pense qu'à un moment donné, ils ont essayé de dénigrer Julien. Mais Julien.
Et c'est pour ça qu'il a parlé, parce qu'il a. Il a mis directement en cause Christophe Galtier. Hein.
Et Christophe Galtier a répondu aussi en conférence de presse.
Oui.
Ouais, ben, c'est vrai que quand Galtier répond en conférence de presse par rapport aux jeunes, mais j'ai pas dans ses mots, j'ai pas trouvé quand même d'essayer d'avoir une réflexion sur le jeune et sur le ramadan. Mmh. Il dit ouais, mais bon, et il devrait dire oui, bon, mais faut qu'on trouve
un compromis.
Un compromis pour la période de ramadan. Mmh.
Très bien, on va marquer une première pause et on se retrouve dans un instant.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Foot de sport, la semaine sportive.
Bon, inutile de revenir sur les résultats, puisque les résultats sont ce qu'ils sont. Mais par contre, on va s'intéresser, mon cher Fodil, au tirage sort du futur Chan. Alors moi, j'en ai marre des gens qui me parlent de la Chan. Mais bon sang, parler le français correctement. On ne dit pas la championnat. On dit le championnat. Donc la Chan, ça n'existe pas. C'est le Chan. Barakat. Arrêtez d'écrire des âneries ou de raconter n'importe quoi. Donc, c'est le championnat d'Afrique des Nations qui est réservé aux joueurs locaux, je précise. Ça veut dire que l'équipe de Majid Bouguera, c'est elle qui va jouer cette compétition. Alors, visiblement, un stade a été recalé par la commission de qualification des terrains de football, mon cher Fodil. C'est le stade de Annaba.
Exactement, c'est celui d'Annaba qui n'était pas retenu par la commission parce que c'est un stade qui a beaucoup de retard au niveau des travaux, au niveau de la pelouse, au niveau des tribunes. Et c'est apparemment un stade qui ne reflète pas les normes de sécurité pour un match de foot de la Chan.
Ouais. Moi, en parlant d'Annaba, pour moi, c'est un stade qui est. Depuis des années, moi j'ai connu. J'ai été à Annaba sur un Algérie-Sénégal.
Oui.
Pour moi, c'est un beau stade. Bon, c'est dommage, le stade, il est beau. Il contient plus de 60, 80
000. Oui.
Voilà, ouais. C'est un stade. Mais je trouve ça malheureux au niveau de la gestion du stade qu'il est dans cet état-là. C'est pas normal d'avoir. T'as le 5 juillet. T'avais le 5 juillet, t'avais Annaba. C'était les deux plus grands stades où l'équipe nationale, ou Blida. Je vais rajouter Blida.
Mais nous avons Constantine aussi. Le stade de Constantine.
Non, mais où qu'on a pu jouer, c'est plus Annaba. Il y a eu pas mal de gros matchs à Annaba. Ben, je trouve ça dommage pour l'histoire de ce stade qui est dans cet état-là.
Et sauf qu'aujourd'hui, apparemment, Blida a été recalé aussi. Ça fait beaucoup, là, faut dire, là.
Pour l'instant, j'ai pas eu cette information du stade de Mohamed Chaker.
Ouais.
Mais ça m'étonnerait parce que pour l'instant, uniquement.
Parce que, dessus, la sélection nationale, ça a été un petit peu sans fille. Enfin, c'est pour ça que les bruits de couloir qui sortent comme ça, des fois, j'y crois pas trop. Bon, Annaba, c'est une décision de la Confédération africaine de football. Ça veut dire qu'il va falloir y penser sérieusement. Oui.
Bah, ouais. le problème des stades, c'est bien qu'on en parle à Beurre FM, mais le problème des stades, c'est que aujourd'hui, quand tu vois les résultats des jeunes, ils sont liés à quoi? Problème de stade. Ouais. Quand l'équipe nationale joue à Sidi Moussa, les espoirs, ils peuvent pas y aller. Ouais. Ça veut dire qu'on n'a pas un deuxième. On n'a pas
Boula,
un deuxième
détenu. Boula, je me permets juste de te poser une question. Est-ce que tu sais pourquoi l'équipe nationale algérienne s'est déplacée à Oran avant leur match respectif face au Nigeria et à la Guinée? Parce que la pelouse du stade de Sidi Moussa est impraticable.
Mais oui, c'est vrai qu'ils sont en train de refaire
Et Jamel Belmadi s'est arraché les joues quand il est arrivé au stade de Sidi Moussa, parce que au début dans son programme et dans son planning, l'équipe nationale allait se déplacer à Oran 24 heures avant son match.
Et donc du coup, il s'est retrouvé pendant quasiment tout le regroupement à Oran.
Voilà, exactement, c'est pour ça qu'ils sont partis.
Bisous à mes deux sœurs qui m'écoutent.
Il n'y a pas de souci, tu leur passes le bonjour.
Qui m'écoute.
Oui, tu es en direct, Boula. Il n'y a pas de.
Des bisous à mes nièces et à ma mère.
Bah, c'est bien. Bah oui, il faut y penser.
Mon neveu, Jawed.
Ah, bah, décidément, voilà, Big Family.
Et Momo.
Du coup, Fodil, je reviens sur cette histoire de Chan, tirage au sort. Quels sont les stades qui sont retenus aujourd'hui en sachant que le Chan, c'est bientôt, c'est au mois de janvier.
Il y aura normalement le stade de Blida, il y aura le stade aussi du 5 juillet. Pour l'instant, c'est pas encore officiel. Le stade de Balaqis, s'il est prêt d'ici là. Peut-être le stade de Tizouzou, je dis bien peut-être, parce que apparemment les travaux finiront début d'année, ça veut dire le stade sera prêt pour la Chan. Et le stade d'Anaba, malheureusement, a été recalé.
Est-ce que le stade d'Oran a été retenu?
Oui, bien sûr, le stade d'Oran.
Ouais, d'accord. Très bien. Et du coup,
Il y a un éducateur qui a rejoint le staff de Majid Bouguera, c'est Karim Matmour.
D'accord. Oui, bien sûr. On se rappelle de Karim Matmour. Oui.
Et il est dans le staff.
Ouais, ça c'est une bonne nouvelle aussi. Ouais.
Voilà, qui a joué en Allemagne, qui a fait une grosse carrière en Allemagne et qui était international chez nous.
Et puis, n'oubliez pas, puisqu'en parlant du Chan, est-ce que tu as la liste des groupes, faut-il? Puisque le tirage au sort a été effectué là.
Pour l'instant, je ne l'ai pas. Attends, juste, je vais la retrouver.
Je sais que maintenant, aujourd'hui, avec le clavier, on retrouve tout très vite. Je pense que si le président de la Confédération, M. Motsepe, s'est déplacé à Alger, c'est pour assister au tirage au sort de cette édition du Chan. Mais au même temps, bien sûr, il est venu. Je pense qu'il est venu avec un message en disant tiens, on retire la CAN à la Guinée et quasiment dans l'heure qui a suivi, comme par miracle, l'Algérie qui déclare officiellement sa candidature par le biais de sa fédération, de son président, qui déclare que l'Algérie est candidate à l'organisation de la CAN 2025.
On avait parlé avant.
Je le sais, faut dire.
On avait parlé avant que la CAN en Guinée allait être retirée à la Guinée. Et pour l'instant, j'ai aussi les groupes. Nous avons 5 groupes. Le premier, c'est celui de l'Algérie. Nous avons l'Algérie, la Libye, l'Éthiopie et le Mozambique. Le groupe B, nous avons le Congo, l'Ouganda, le Côte d'Ivoire et le Sénégal. Nous aurons un beau match entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le groupe C, c'est le Maroc, Soudan, Madagascar et le Ghana. Le groupe D, nous aurons le Mali, l'Angola, Mauritanie. Et le dernier groupe, entre le Cameroun, le Congo et le Niger.
Alors, donc, maintenant, je vais vous donner mon analyse telle que je la perçois. Vous savez très bien, je ne vous apprends pas aujourd'hui, vous qui êtes spécialiste de football, que les championnats locaux en Afrique ont beaucoup régressé du fait du départ massif de tous les jeunes Africains vers l'Europe. Et la preuve, les championnats locaux africains sont d'une extrême pauvreté en termes de qualité de jeu. Aujourd'hui, c'est un petit peu l'Afrique du Nord qui, depuis des années, domine ce Chan, à l'image du Maroc. Vous allez voir, vous allez retrouver même la Libye, qui est une très bonne équipe, l'Égypte ou la Tunisie. Donc, je me dis aujourd'hui, dans les équipes subsahariennes, par rapport au niveau de leur championnat, moi, je les vois mal aller dans le dernier carré. Alors, faut dire.
Donc pour moi, en tout cas, la bonne qualité, c'est le championnat algérien. Parce que pour Bouguera, il y a beaucoup de joueurs qui sont rentrés en Algérie.
Oui, oui.
en l'occurrence Abdlaoui, qui a été recruté à l'USMA, le gardien de but aussi qui est rentré en Algérie, parce qu'avant il évoluait au Maroc. Nous avons aussi Haribi qui est rentré en Algérie, ça veut dire pour Majid Bougala, il aura beaucoup de cartes pour le Chan. Mais en revanche, pour les championnats subsahariens, il faut vraiment s'attendre à ce que ça soit physique. Ce sont des joueurs qui sont physiques, techniques aussi. Ouais. Et par contre, en revanche, l'Algérie aura bien sûr son public qui sera derrière la sélection. Ouais. Quoi qu'il arrive, et Bougala peut-être il finira dans le dernier carré de ce championnat.
Bah, tu sais que Bougala connaît très bien Majid. Moi, je connais très bien Majid, puisqu'on a tous, on va dire, bourlingué dans la phase, on va dire, à partir de 2007-2008 jusqu'à 2014 avec tous ces garçons. Dans quel état d'esprit se trouve aujourd'hui Majid Bougala par rapport à ce Chan? Est-ce qu'il est inquiet? Est-ce que il se dit que il va manquer de joueurs qui vont partir?
Non. Au contraire, il était content de son match contre le Nigeria parce que la plupart des joueurs nigériens en jeunes, en la prime, ils jouaient pas mal. Il fait un match amical contre eux et ça joue. C'était un match amical. Oui. Et l'opposition était intéressante et il a aimé la réaction de son collectif et de son groupe parce que pas mal de joueurs jouent en Europe. En jeunes. Parce que t'as Léa qui joue en Europe et t'as même les espoirs qui jouent en truc. Mais l'avantage, j'ai pas abordé les terrains, tout ça, mais quand je discute souvent avec Karim Ziani, c'est vrai que c'est un gros handicap, les infrastructures, au niveau de la progression du football algérien. Parce que quand tu joues sur un synthé et quand tu vas jouer en Europe sur de la pelouse et tu regardes les blessures de Attal, tu sens que c'est quelqu'un qui a grandi sur du synthétique, au niveau des articulations, au niveau musculaire, tout ça. Et quand ça arrive sur la pelouse, tu vois, il y a des mecs qui sont fragiles et ils se blessent ou ils se claquent vite fait. Le cas de Yacine Bezage, il a eu pas mal de blessures. Et je pense que le médical, ils ont pas, à un moment donné, je pense que plus c'est un problème médical entre la gestion des footballeurs algériens qui jouent sur du synthétique et quand ils arrivent en Europe. Il y a pas mal de joueurs blessés et ça c'est des vraiment par rapport pour le footballeur algérien, c'est des paramètres très très importants.
Est-ce que ce n'est pas ça qui fait qu'aujourd'hui, par exemple au niveau des championnats locaux, etc., au niveau africain, c'est le Maroc qui domine tout, que ce soit au niveau des clubs, même le Chan, ils l'ont gagné deux fois de suite, même si ce n'est pas même si une fois c'était à l'extérieur, n'empêche que le Maroc, c'est vrai qu'il a plus de stades en plus en gazon naturel. On le voit à travers l'ex-club, à travers le.
Aussi.
Oui, bien sûr, ça on le sait.
Le club Idifoudil, moi je me rappelle, ils ont fait appel à Nasser Larguet au Maroc.
Ouais.
Et Nasser Larguet, qu'est-ce qu'il a fait? Ils l'ont le secrétaire du Maroc, le président, il a demandé à rencontrer Nasser Larguet. Nasser Larguet qui a une école de formation, qui a travaillé dans toutes les écoles de formation en France, qui était formateur.
Absolument.
Il l'a sollicité. Et Nasser lui a monté un projet, l'Académie Mohamed Sisky à Rabat, au niveau des infrastructures. Ça a été extraordinaire. Même Madjer l'a visité, il a trouvé ce. Mais le problème, c'est comme il dit Foudil, l'argent n'est pas le problème du championnat. Au lieu de mettre l'argent sur la Fédé et de construire tout ce qu'il y a à construire au niveau des terrains, je pense que la Fédé n'a pas fait le travail, n'a pas fait le travail avec le ministre des Sports pour avoir ces installations. On n'a pas d'installations au niveau. Après, faut pas se demander pourquoi Hachan allait gagner. Déjà, Nasser a monté ce centre de sport-études en formation. C'est ce que je disais dans la semaine avec quelqu'un qui est très très bien en Algérie. Et je lui dis le deuxième cas du football algérien. On a fait des choses avec les A. Mais le problème, c'est toujours Léa comprimé. On a eu des résultats avec Léa, on a gagné la Coupe d'Afrique. Mais le problème, c'est que l'argent qu'on a pu gagner ou qui est pu se rentrer dans la Fédé avec le ministre des Sports, je pense que politiquement, on devrait investir un peu plus au lieu de donner des 10 000 ou des 20 000 euros à des joueurs. Des joueurs algériens, je pense qu'on a plus besoin d'investir de l'argent sur les infrastructures pour avoir des résultats meilleurs que ceux qu'on a.
Très bien. On va peut-être rapidement. Et puis, juste après, j'ai envie de revenir quand même sur ce retrait de la candidature de la Guinée pour la CAN 2025. Pourquoi il faut revenir aussi en arrière. c'est qu'à l'époque, le patron de la Confédération s'appelait Issa Hayatou. Et Hayatou, il savait qu'il était sur le point de perdre son mandat. Et donc, pour laisser une trace dans l'histoire, il a octroyé trois cannes d'affilée à des pays, on va dire, je dirais francophones. C'était même le terme qui était choisi. Et sauf qu'à l'époque où il a choisi les pays pour organiser cette CAN, on était à 16 nations. Or, lorsque le malgache, je me rappelle plus de son nom, Ahmed, je crois, quand il est arrivé, eh ben, il a vu que l'Europe a changé en nombre d'équipes dans l'euro. Eh bien, il a fait un copier-coller en faisant passer l'Afrique, la CAN, le CHAN, la CAN, de 16 à 24. Or, organiser une CAN à 24, du jour au lendemain, le Cameroun n'avait pas les capacités, la Côte d'Ivoire non plus, la Guinée non plus. Et rappelle-toi, Boula, on est parti vers l'Égypte qui avait déjà les moyens d'organiser une CAN à 24. Donc, d'ailleurs, c'est la toute première CAN organisée comme ça à 24 en Afrique.
Le siège, il est où,
Oui, je sais.
Il est en Égypte.
Oui.
Le problème, c'est que...
Je ne peux pas dire autre chose.
Il y a des volets politiques.
Oui. Bien sûr.
Après, nous, au niveau politique, en Algérie, je pense qu'on gère très très bien. On a du caractère. On sait se faire respecter donc que ça soit en Afrique ou que ça soit dans le monde. Je sais qu'on n'est pas des gens à faire n'importe quoi. On a quand même des valeurs au niveau certains pays.
Parce que là, on a quand même, faut dire, tu vas être d'accord avec moi aussi, on a une très très belle fenêtre aujourd'hui pour l'Algérie, à savoir le CHAN, la CAN des U17 également en 2023. Donc il y a un ensemble de compétitions là comme ça qui arrivent sur l'Algérie. C'est une occasion rêvée aussi de mettre l'argent, comme tu l'as dit, Boula, sur les infrastructures et permettre à cette jeunesse d'exploiter son immense talent. Enfin, moi, c'est ce que je veux aujourd'hui, sur les 2-3 ans qui viennent.
Et pour mettre cet argent, moi, je suis d'accord avec toi, Mohand, je suis d'accord avec aussi Boula, mais je suis d'accord pour le fait que s'ils mettent cet argent, je préfère que ça soit l'État qui investit et non pas les clubs.
Ah oui, non, mais de toute façon, les clubs, écoute...
Parce que quand on voit les clubs en Algérie, on a l'impression qu'ils surenchèrent sur des joueurs qu'ils achètent, comme Boula l'a rappelé tout à l'heure, à 25 000, 30 000 euros, alors qu'ils ont des joueurs qui sont extrêmement talentueux dans leur équipe de réserve. Quand on voit un club comme la JSK, avec toute son histoire et son emblème, parce qu'elle représente une région et elle représente l'Algérie sur la scène nationale et internationale, la JSK quand même, qui n'a même pas de centre de formation et qui n'a même pas de stade. Ça veut dire que la JSK est obligée de se déplacer à Sétif pour accueillir ses adversaires en Ligue des Champions.
Ouais, ce qui est honteux. Très bien, on va marquer une seconde pause et on se retrouve dans un instant. Je prendrai quelques appels et puis il y a également nos invités qui vont arriver. Pour 19h, je vous l'ai dit, on va passer un dimanche exceptionnel ensemble.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Foot de sport sur Beurre FM.
Pardon, lui, il piaffe d'impatience. Oui, il a tellement de choses à dire. C'est notre ami Malik. Bonsoir Malik.
Bonjour Mohand.
Azoul, ça va Malik?
Ça va, je suis malade Mohand.
Ah ouais. Bon rétablissement Malik.
Frodil et Boula. Bonjour Boula. Il est là?
Ah, il est bien. Ouais. Bah oui, il t'entend Boula, bien sûr.
Avec Sofiane de l'autre côté, Nasser, Nawel et tout ça, voilà.
Voilà.
Je rentre à l'hôpital à Mohand.
Ah, c'est pour ça, mon cher Malik.
Ouais, depuis mardi, j'étais sorti vendredi parce que j'avais un problème de cœur. Ils m'ont mis un seuil de côté de cœur et tout ça. J'étais sorti vendredi.
Ça va, alhamdulillah, l'essentiel.
J'étais sorti tout ce moment en posant la
maison. Et tu vois, regarde ce qu'il a fait, Malik. Il est sorti de l'hôpital, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle à l'émission.
Voilà, faut être courageux dans la vie. Voilà. Moi, t'as parlé de Bélélie, je sais pas pourquoi il veut quitter Brett. Et il est pas dans sa tête intelligent. Il est pas mûr dans sa tête. Parce qu'un joueur, pour évoluer, il faut qu'il évolue en Europe. Faut sa patte, il s'est évolué en France et en Europe. Il retourne à l'Arabie Saoudite, et ben, eh ben, il n'a rien du tout.
Voilà. Ben, je pense c'est comme
Bounjah.
Ouais, ouais. Je pense que voilà. Jamel, déjà, regarde, depuis plusieurs matchs, voilà. Jamel n'appelle plus Bounjah, c'est vrai.
Voilà, voilà,
il
voilà.
Fait pareil avec Belaïd.
Hein, pourtant, Bounjah, il est en forme là, actuellement. Il marque des buts.
Oui, hein. Tu marques des buts en marchant. Bah, oui,
voilà.
C'est un championnat voilà. De la marche.
Mais il n'a pas
voilà,
appelé le Qatar. Hein.
Hein voilà,
il a
voilà.
Non, justement. Qatar, hein. Il n'a pas appelé.
Il n'a pas appelé.
Je pense que Jamel a compris.
Oui. Il n'est pas net de sa tête. C'est comme ça qu'il a fait en juin. Il est parti.
Quand tu vois tous les joueurs africains qui jouent en Europe, bah oui.
Voilà. Les joueurs africains, ils marchent devant. Ouais. Les joueurs de l'OCAP de l'Algérie, ils retournent en Algérie. Il n'y a pas seulement à appeler, il y a Mohad. Il y a un joueur qui joue à Nîmes, il est venu.
Lui, c'est
Alibi. Il a 28 ans. Ouais. Il est retourné à Saint-Belouis-Tête. Ouais. Voilà. Ouais. Au lieu de rester à Nîmes, il a de part en Turquie, il a part à Azerbaïdjan, il a part en Suisse, je sais pas moi. Les gens de local là qui sont. Normalement, ce qui est fait, Bougalère, c'est bien, c'est un bon travail pour montrer un valeur pour partir en Europe. Voilà. Parce qu'en Algérie, on n'a pas de centre de formation, on n'a rien du tout.
Eh oui.
Voilà. Voilà. La
parce
Tunisie.
Ils n'investissent pas, Médic, c'est pour ça.
Il y a de l'argent, il ne veut pas. J'ai dit non, mais on en ce moment, on n'a pas la formation. Quand tu as dit tout à l'heure la GSK, oui, ils n'ont pas de centre de formation, mais le stade, depuis des années, il n'est pas fini. Voilà. Il y a le magouille quelque part.
C'est comme le stade de Tizi Ouzou, Médic, c'est comme le stade de Tizi Ouzou, ça fait
le stade de Tizi Ouzou, c'est celui-là, je te dis. Il n'est pas fini, voilà.
Ouais.
Voilà. Le stade, je ne sais pas, d'or, il est fini. Le stade de Tizi Ouzou, depuis des années qu'il est en train de construire, il n'est pas fini. Oui. Il y a quelque chose. Voilà.
Aujourd'hui, la norme pour faire un stade,
c'est... Là, toujours. Toujours, on compte sur les joueurs. Il faut que j'ai rien. Des joueurs à migration. Ouais. Toujours.
Bah, oui, parce que, parce que les joueurs, ils sont formés. Hein.
Voilà.
Bah, oui, les joueurs, ils sont en France. Hein.
C'est la France qui nous fait des joueurs.
Eh ben, regarde, Boula, Malik, regarde, Boula, lui, il a l'habitude d'être sur le terrain, donc il connaît tous les gamins, leurs parents,
voilà.
Etc. Aujourd'hui, il faut le faire rêver, quoi.
Bon, voilà. Maintenant, regarde.
On a un joueur, Malik, un joueur algérien.
Oui.
Sa grand-mère est algérienne.
Oui.
C'est Gigot de Marseille.
Ouais, Samuel Gigot. J'ai entendu.
Sa grand-mère est algérienne.
Oui, pourquoi il ne ramène pas? On n'a pas le choix, il faut le ramener.
Je ne sais pas qu'il ne ramène pas. Bon, oui. Je ne sais pas s'ils savent que sa grand-mère est algérienne.
Oui.
Je sais que, vu les performances, c'est. Et il a joué avec Sofiane Hani en.
Ah oui,
ouais, c'est pas de bon, ce que j'ai entendu.
Il a joué avec Sofiane Hani aussi. J'ai vu le potentiel de Gigot cette année là, sur tous les matchs de Marseille, c'est vraiment un joueur intéressant. Et ce que je comprends pas, c'est que même en France, ils l'ont jamais appelé.
Je m'en ai appelé. Voilà, pourquoi n'appelle pas l'Algérie? Je pense, excusez-moi.
Après, c'est peut-être lui qui veut pas aussi, hein.
Non, ça a bien de l'appeler. Excusez-moi, je dis à monsieur Belmadi. Je pense Belmadi, il y a pas de discipline dans l'équipe d'Algérie. Parce qu'il parle avec les joueurs, c'est comme il connaît Amou, Benhamé, Koulouch. Il faut la discipline, c'est comme valide.
Non, mais je pense que déjà, Jamel, il sort d'une douleur, attention. Le type, quand il était à la tête de la sélection comme ça, sur 10 secondes, tu dis adieu à ton rêve. Bah, tu sais que c'est aussi un humain.
Il faut travailler, mon gars.
À un moment donné, moi je pense que Jamel aussi a besoin, il a besoin de rebondir. C'est normal. Attends, il a vécu un traumatisme. Même moi aujourd'hui, j'arrive pas à avaler la pilule. Même moi, je suis supporter. Alors lui qui est en tant que sélectionneur, il a besoin de temps pour revenir.
Quand tu dis j'arrive pas à avaler la pilule, faut l'avaler, faut respecter un petit peu même l'adversaire. On perd, on gagne la Coupe d'Afrique, derrière on se fait éliminer pour la Coupe du Monde à 10 secondes de la fin. Si on se fait éliminer, c'est quelque part il nous manque quelque chose.
Il est venu à Brest, il faut travailler, mon gars, il faut qu'il monte sa valeur. C'est ça le problème.
C'est ces détails-là qui nous a manqué, parce qu'on a, des joueurs qui sont pas disciplinés.
Ils sont pas disciplinés comme Bounjah, la même chose. Oujna. Au lieu de. À l'époque, ils l'ont contacté par Saint-Étienne, il ne veut pas venir. C'est en Europe, à Blacktown. Voilà,
bon, ok, Malik. Malik, c'est bon. Ouais. Merci, parce qu'il y a encore beaucoup de monde au stand.
Merci, Malik.
Ouais. Ok, Malik, je vois de Foucault, ils ont plein. Il y a un jeune.
Non, on n'a pas le temps de parler des joueurs.
Il veut jouer pour l'Algérie.
Ouais, mais pour l'instant, j'ai pas le temps de parler des joueurs, parce que le stand, il est plein. Il y a des invités qui arrivent. Ouais. Merci, voilà. Malik. Bonne soirée.
Merci, au revoir. Bonne journée.
Merci,
au revoir.
Malik. Bonne santé.
Je vais. Donc, alors, c'est du live. Je suis en train de chercher pour que. Voilà, pour que Fodil aille récupérer nos invités. Bon, alors je vous demande maintenant de passer au sujet suivant. C'est cette histoire de Cannes. J'ai sorti le sujet. Vous y croyez ou vous y croyez pas ?
Moi, de mon côté, je suis confiant. Oui. Je suis confiant parce que l'Algérie a un bon dossier. Mais pour l'instant, il faut attendre aussi les autres pays qui vont se porter candidats.
Parce que moi, quand
nous
on dit...
Nous avons le Maroc qui va être candidat.
Mais attends, faut dire, ok, le Maroc. Mais le Maroc, deux fois... Je veux dire, le Maroc, il a fait deux fois faux bon à la CAF.
Oui, oui. Mais nous, on a attendu 32 ans pour une candidature. Ça veut dire qu'on a attendu 32 ans, t'imagines.
Mais moi, il y a un truc, je sais pas, quand vous dites je suis confiant. Après, faut être lucide au niveau des installations. Est-ce qu'on a les stats qu'il faut?
Pour 2025,
ça demande, c'est que ça demande un travail à mettre en place, surtout sur les stades. On a bien vu le Qatar en Coupe du Monde, eux, l'investissement qu'ils ont fait pour faire la Coupe du Monde. Moi, je dirais, même si demain je la fais pas en 2025, je préfère que les instances politiques ou le ministre des Sports, on pense à construire des stades pour toute cette jeunesse qui vient derrière. Moi, de la Coupe d'Afrique en Algérie en 2025, c'est pas ça qui m'intéresse.
Non, mais c'est un tremplin.
En tant que amour du football, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est que la jeunesse à ces infrastructures pour pouvoir travailler, pour pouvoir truc, et au moins le public serait fier d'aller dans des stades qui sont aux normes et qui seront au top. Ça motiverait toute une population au niveau football qui serait intéressante.
En tout cas, pour moi, pour ma part, les stades, je pense qu'on les aura d'ici 2025. On aura le stade de Annaba, on aura le stade de Balaki, celui de Tizi Ouzou. Bah, au niveau des infrastructures, je pense qu'on sera au point d'ici 2025. Il faut se rendre à l'évidence. Mais pour l'instant, moi, ce que j'attends les autres pays qui vont se porter candidats. Ouais. Nous aurons le Maroc qui sera candidate. Nous aurons aussi le Sénégal et la Côte d'Ivoire.
En tout cas, la Côte d'Ivoire, c'est impossible puisqu'ils organisent la prochaine CAN.
Déjà, d'avoir.
Non, faut dire.
Selon un site,
c'est une connerie. Oui, mais celui qui a sorti cette phrase-là, il est. Excuse-moi, je veux dire, c'est un âne. Parce que la Côte d'Ivoire va organiser la prochaine CAN. Comment veux-tu que.
Ils seront prêts d'ici là.
La Côte d'Ivoire va organiser la CAN 2023. Tout le monde est au courant.
Oui.
Bon, comment
se. Mais en 2025, ils seront prêts. Ça veut dire qu'ils ont les infrastructures.
Comment veux-tu que la Côte d'Ivoire organise 2023-2025? Ça n'a aucun sens. Réfléchissez un peu quand même.
Oui, mais.
Celui qui a écrit ça, excuse-moi, il doit retourner à l'école. C'est pas possible d'écrire une ânerie pareille.
Bah, en tout cas, c'est un site.
Oui, c'est un site à 2 balles. Voilà, allez. Voilà. Ben oui, c'est un site à 2 balles.
Après, moi, pour
parce pas... que c'est organisé après le Cameroun. Le prochain organisateur, c'est la Côte d'Ivoire.
Oui, c'est la Côte d'Ivoire. Bon. Mais ce que j'essaye de te dire, la Côte d'Ivoire organisera la CAN en 2023.
Oui.
L'année prochaine.
Oui.
Ça veut dire la Côte d'Ivoire. Si par exemple il y a aucun pays qui est prêt, la Côte d'Ivoire, elle l'est. C'est ce que j'essaye de te dire.
On ne peut pas donner deux fois de suite l'organisation d'une CAN à un pays. Ça n'existe pas.
Bah, en tout cas, c'est ce que...
Déjà qu'ils ont un problème, soi-disant, de climat, et on va revenir, on s'est battu pour harmoniser les calendriers, et au final, on est revenu à la case départ, à savoir des cannes en hiver pour les pays subsahariens et des cannes en été pour les pays nord-africains. C'est une évidence, c'est une réalité. Voilà, c'est ce que je dis là. C'est parce que c'est du vécu.
Le Ghana en 63 l'a organisé deux fois. Là, je te sors un petit exemple.
Il y avait combien de pays indépendants?
Il y a un truc, il faut que tu saches que quand tu parles de faire les CAN, tu sais très bien que c'est un vecteur très politique. C'est un vecteur très
bien
politique.
Sûr,
quand on annule la CAN à 2 mois de la CAN au Maroc, c'est pas le problème de cette maladie qu'ils nous ont fait croire.
Oui, oui.
Ça, s'ils l'ont annulé, c'est politique.
Oui.
Voilà. Après, faut que le Maroc, ils sachent qu'ils ont eu leur tour.
Oui.
Maintenant, tu sais très bien que politique au niveau mondial, ils ont une cote. Mais là, faut pas, à un moment donné, il s'avérait que dans le monde, à un moment donné, les CAN, c'est le vecteur du pays, au niveau médiatique en Europe.
On est d'accord.
Toutes ces CAN, ils sont décidés dans le monde. Oui. Ceux qui décident un peu de comment ils voient le monde. Et c'est ça le drame dans ça. Parce que de faire la Coupe du Monde en Algérie, de faire la Coupe d'Afrique en Algérie, c'est quand même un pays. Tu sais très bien que nous, on est un pays qui est très ciblé.
Oui.
On dérange.
Oui.
On dérange. Heureusement qu'on a des instances politiques qui sont très forts et qui tiennent la route. Parce qu'on est quand même des gens qui se font respecter. Et par rapport à ça, j'estime que j'espère pas qu'en 2024, on va nous dire non, on peut pas la faire. Parce que vous avez pas les installations. Si on n'a pas les installations, tu dis 2025, ça se prépare avec la CAF et la FIFA.
Bien sûr.
Une CAN, ça se prépare.
Ouais, bien sûr.
Tu la prépares en fonction de la FIFA, au niveau de la CAF, pour, faut que la FIFA donne
le mandat à la CAF, ça on le sait.
Les budgets, ils sont donnés. Il y a des budgets qui sont donnés par la FIFA, on sait très bien. Parce que tu me parles d'Aïssa Ayatou, est-ce que tu penses que c'est une figure qui a fait du bien à l'Afrique?
Moi, je pense que, mine de rien, il a fait du bon boulot.
Non, moi je dis non.
Bah ouais.
Il a plus fait du business que du bon boulot.
Oui, bah après.
Ah non, mais attends, mais du bon boulot.
Mais ils font tous du business.
Tu veux que je te dise, les responsables de la CAF, tu sais c'est quoi? Ils n'ont qu'à imposer des pays de faire des infrastructures. Sinon, il n'y a pas de Coupe d'Afrique et il n'y a pas. Si admettons la CAF, si la CAF à un moment donné, il ferait des interventions comme ça, ils exigeraient des stades. Et je pense qu'on fera un truc top.
Très bien, on arrive à la fin de cette première heure. Merci. Vous restez du côté du standard. On va jongler avec nos invités, croyez-moi. Encore une émission très, très costaud.
Foot de sport revient dans un instant. 18h, 20h, Foot de sport. Avec Mo Marouf sur Beurre FM.
Deuxième heure de Foot de sport jusqu'à 20h en compagnie de Boula et de Foudil et notre invité qui est arrivé également au plateau. Il s'appelle Ismaël Badawi. Il va nous parler de son club et du problème qu'il vit au quotidien. Il vient de Sartrouville, hein, c'est en région parisienne. Et vous allez voir que ce cas-là n'est pas un cas isolé puisque aujourd'hui en France, on assiste de plus en plus à ce que j'appellerais le flagrant délit de faciès à travers le sport. Et quand on entend également toutes ces histoires liées aujourd'hui au football français, de par les maraboutages, etc., et tout, l'argent. Bref, on est dans une société qui perd pied et on a besoin justement de ces petits clubs, de ces amateurs qui vont nous faire, malgré tout et malgré leurs problèmes, nous faire toujours rêver du ballon rond. Voilà.
Par contre, parenthèse, Ismaël, il ne faut pas oublier que c'est un petit jeune de Sartrouville, mais qui a été formé aussi à Troyes, qui a été dans le monde professionnel au niveau de la formation.
Bon.
C'est quand même un paramètre très important.
Parce que je rappelle quand même que Boulan. Alors, si.
Qui a été formé avec Karim
Zeni. Parce que Boula connaît tous les stades de France.
Avec Rafik Saifi, voilà, c'était un petit peu ces jeunes de formation qui étaient à l'époque quand il y avait Rafik, quand il y avait
Je me souviens, Karim. J'ai fait un sujet là-bas à l'époque sur les stacks.
Si t'as fait un sujet, sache qu'il a été formé à Troyes.
Il y avait, à l'époque, Karim Zeni, il y avait Rafik Saifi, je m'en souviens très bien. Il y avait Jérôme Roten, je m'en souviens aussi, les frères Bangoura.
Maman Niang.
Oui, Nabil Berkak.
Enfin, il y a Nabil Berkak. Ben
oui. Donc, tous ces garçons, je les ai vus. Ils étaient sous la houlette de Farouk Hadzibegic à l'époque.
C'est-à-dire tout ce qu'il a appris dans le monde professionnel et il essaie de retransmettre ça. Ils ont la chance à Sartrouville d'avoir un éducateur, de venir en tant qu'éducateur pour travailler sur le projet de Sartrouville.
Je demande à nos auditeurs de rester en ligne. Je vous prendrai un peu plus tard parce que dans un premier temps, j'ai juste besoin de connaître cette histoire abracadabrantesque, comme le disait le regretté Jacques Chirac. Ismaël, est-ce que tu peux nous donner un petit peu la jeunesse de cette histoire de ton club?
Bonsoir déjà, merci.
Voilà, tu peux y aller.
Merci déjà pour l'invitation et merci de mettre à l'honneur les clubs amateurs, parce que avant de parler de mon club, il faut d'abord rappeler que le foot amateur, c'est ce qui permet à des joueurs de devenir pro plus tard. Et c'est ce qui alimente les plus grands clubs aujourd'hui, et notamment l'équipe de France. Et ils ont tous commencé dans des clubs comme le mien, dans des clubs même un peu populaires, hein, où il y a beaucoup de diversité, mais ils ont tous commencé ici. Donc merci de nous donner la parole, parce que on nous donne pas beaucoup la parole aux clubs amateurs, et c'est bien aussi, à travers toi et ton émission, de nous mettre en lumière, et à travers notre histoire qui nous arrive aujourd'hui à Sartrouville, c'est beaucoup de clubs qui sont touchés de la même manière, et c'est un peu on, ça va faire un peu à jurisprudence, parce que à un moment donné, faut plus qu'on se laisse faire, nous, dans les banlieues, parce qu'on a un rôle qui est quand même primordial. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrête de nous étouffer de cette manière. Et c'est surtout les pouvoirs politiques qui essaient de nous étouffer. Donc, il ne faut pas qu'on se laisse faire.
Alors, concrètement, que se passe-t-il au sein de ton club ?
Alors, ce qui se passe, c'est que déjà, nous, les clubs amateurs, on fonctionne avec très peu de moyens.
Bien sûr, ça, on le sait. Ouais.
Sans le bénévolat des parents, des dirigeants qui viennent de manière gratuite la semaine et le week-end pour aider les clubs de foot et notre club de foot, on ne serait rien, parce que les subventions données par la mairie de Sartrouville sont absolument ridicules. Maintenant, on fait face à ces difficultés depuis un certain nombre d'années, mais là, ils ont poussé un peu le bouchon un peu loin, c'est pour ça qu'on a tiré la sonnette d'alarme. En fait, sans réunion préalable, sans information et sans nous préparer à ça, et ou en tout cas nous inviter à des réunions qui nous permettraient d'en discuter, ils ont décidé du jour au lendemain de nous convoquer à une réunion pour nous dire votre clubhouse et vos bureaux administratifs, entre parenthèses, qu'on a retapé nous-mêmes en mettant un coup de peinture il y a 2 ans et demi, parce que sinon ça serait jamais fait par la mairie, on l'a fait nous-mêmes avec les parents. Du jour au lendemain, ils nous ont dit vous partez de là-bas.
Ah, et c'est quoi le motif ?
Aucun motif. La municipalité gère les locaux publics. Faut savoir que nous, c'est notre lieu de vie. Hein. C'est là que les parents se rencontrent, c'est là que les enfants font des goûters, font des réunions. Les réunions avec les parents, c'est ici. Les réunions avec les éducateurs, c'est ici. Le lieu de vie du club, l'âme du club, c'est ici. C'est là que tous les enfants se rencontrent. Faut savoir que dans les villes comme Sartrouville, on est la deuxième plus grande ville des Yvelines. Faut savoir une chose, c'est que c'est des villes qui sont un peu explosées en deux. Vous avez une partie extrêmement populaire où il y a que des quartiers et une partie pavillonnaire, d'accord, avec tout ce qui s'ensuit. Pas la peine de rentrer dans ce débat-là. Et maintenant, le club de foot, c'est la seule association de la ville qui regroupe tous les quartiers de la ville, y compris les zones pavillonnaires. Donc, c'est le lieu où un gamin issu de la Cité des Indes va parler à un autre gamin. Pour ceux qui connaissent, c'est la plus grande cité à Sartrouville. Un gamin issu de la Cité des Indes, et ben, va côtoyer et va prendre le goûter avec un gamin issu d'un quartier pavillonnaire à côté de la mairie, qui en temps normal ne se serait jamais rencontré sans notre apport à nous. Et en fait, c'est ce lieu-là, ce vrai lieu de vie, de richesse, où il y a toute notre histoire. Du jour au lendemain, ils nous disent c'est fait, c'est fini. 1er octobre, vous quittez, vous partez de là-bas. Ok, très bien. Jusque-là, on a envie de dire c'est des locaux publics, ils ont le droit de les utiliser comme on leur semble, même si depuis la genèse du club on a toujours été là-bas, donc ça paraît surprenant, mais soit. Sauf que la proposition, et c'est là que c'est scandaleux et c'est humiliant, et je pèse le mot, c'est humiliant, c'est quand ils nous disent où est-ce qu'ils vont nous, quel bureau ils nous proposent en remplacement. Et quand on apprend que le bureau de remplacement, c'est deux petit bungalow de 10 mètres carrés que vous retrouverez dans tous les chantiers en construction du bâtiment, pour avoir l'image, ils nous ont envoyé là-dedans. C'est-à-dire que si on met juste un canapé dans chaque bungalow, on ne peut plus rentrer personne. C'est humiliant, c'est dégradant, c'est casser la dynamique d'un club. Et aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi.
Ouais. Est-ce que malgré tout, malgré ces difficultés, vous continuez quand même à accueillir les enfants, parce que c'est quand même important? Vous continuez aussi votre pratique de football, tant bien que mal, et vous essayez d'expliquer peut-être cette situation aux parents en attendant une solution miraculeuse, peut-être pas tout de suite, mais dans un avenir assez proche.
Alors, je vais commencer par une chose, c'est dire cet acte-là de la mairie, cet acte humiliant, on l'a senti comme ça. Dans un premier temps, ça nous a mis un coup moral. L'envie de lâcher, de dire c'est pas possible, de toute façon c'est une bataille et une guerre déloyale, se battre contre la mairie, nous on est des citoyens, on est des bénévoles, et il n'y a pas de salarié au club. C'est-à-dire moi je suis père de famille, je travaille à côté, donc c'est du temps en plus que je donne pour le club de foot, et des clubs amateurs. J'ai eu la chance, comme l'a dit Boula, d'avoir connu le monde professionnel, d'avoir été dans des centres de formation. Donc j'ai connu une structure football que aujourd'hui je redonne dans un club amateur de bas niveau, et on a besoin de cette compétence-là pour venir nous faire grandir. La première idée, c'est que je voulais lâcher.
Alors, jalousie.
Alors, je vais vous dire ce que je pense vraiment.
Oui, oui, oui.
Je vais dire ce que je pense vraiment. Moi, la première idée, je voulais lâcher. Et après, il y a tout de suite la force morale qu'on a, qui fait qu'on met pas un genou à terre, on reste debout. On respecte les lois de la République, on respecte notre pays qui est la France. Mais on a des droits et on a des devoirs. Nos devoirs, on les applique, mais on a aussi des droits. Et à un moment donné, ces droits, on veut les faire respecter. Il est hors de question que des politiques qui, pour des raisons obscures, qui sont des raisons subjectives, non pas objectives, mais subjectives, qui ne reposent sur rien, prennent des décisions pour ralentir, freiner, détruire un club de foot qui est utilisé, qui est le sport le plus populaire, mais qui est utilisé par toute la diversité.
Alors justement, j'arrive. On parle de diversité. Ça veut dire que... il y a un côté, il y a un relent, j'utiliserai peut-être ce mot-là comme ça, mais on sent une espèce de, voilà, ah oui, je viens voir un match, mais est-ce qu'il me représente? Est-ce que ce club ne me représente pas? Vous voyez ce que je veux dire en termes de joueurs? Donc il y a cette comment j'appellerais ça, une espèce de différence, ou si je vais aller plus loin, de délit de faciès.
Une ville comme Sartrouvé, c'est une grande ville. C'est une ville qui est dirigée par la droite. Que le plus gros club, la plus grosse association de la ville, qui est le club de foot, qui est la plus grosse association de la ville, soit dirigée par des Français issus de la diversité, ça peut déranger. Ça, la réponse est clairement oui. Voilà. Je le sais, on le voit, c'est identifié, on fait un travail de qualité. Reconnu par tous les parents, de 4 à 77 ans, j'ai envie de dire, avec les vétérans, parce qu'il n'y a pas d'âge pour jouer au foot. Le travail éducatif qu'on fait, le travail social, le lien qu'on crée avec toutes les générations, l'aide aux devoirs, l'accompagnement, on intervient même chez les parents qui sont en difficulté pour gérer leurs ados. Il y a un travail que vous ne vous rendez même pas compte, c'est quoi le travail d'un club de foot aujourd'hui dans les banlieues. Je veux dire, on devrait nous remettre des médailles pour ce qu'on fait au quotidien dans ces quartiers. On devrait nous remettre des médailles. On devrait nous recevoir à la mairie en grande pompe. Nous féliciter, nous remercier. Nous mettre le tapis rouge pour nous demander tout ce qu'on a besoin. Au lieu de ça, on veut nous écraser par des gens qui sont même pas de notre génération, par des élus au sport qu'on sollicite à des entretiens qui nous reçoivent même pas, qui nous répondent même pas, qui n'ont même pas ce respect de l'être humain, de la personne, de se dire regardez tout ce qu'ils font pour les jeunes. Parce que oubliez pas qu'un club comme Sartrouville, il y en a beaucoup comme nous, c'est 800 licenciés, toute la semaine ils sont chez nous, mais les gamins qui ont 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans, les ados 15 ans, quand ils sont avec nous le dimanche après-midi, quand ils sont avec nous toute la semaine le soir, ils sont pas dehors. Le dimanche après-midi, cet après-midi, on avait des U16 qu'on jouait, on avait des U18, des seniors. Hier, on avait des U14 l'après-midi, des U13, des U12 qu'on jouait toute l'après-midi chez nous, qui sont accompagnés. Mais s'ils sont pas au club de foot, ils sont où ces gamins-là? Où est-ce qu'ils sont?
Je dirais dans des endroits, ouais.
Ils sont dans la rue.
Voilà, dans des endroits mal famés, on va dire. Voilà.
Donc en réalité, nous, on est aussi un club de foot, c'est aussi un service public mais qui est gratuit. C'est un service public pour la mairie, mais qui est gratuit. Et au lieu de nous soutenir, nous aider à fond pour qu'on les accompagne dans ce rôle éducatif et ce rôle social qu'on a à travers les jeunes, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont terribles dans les clubs de foot amateurs. Il y a beaucoup d'histoires. J'ai découvert, moi, des gamins qui étaient dyslexiques, qui avaient des gamins qui avaient des maladies psychologiques, on le savait pas, ils avaient pas détecté à l'école. C'est le rôle des éducateurs qui sont proches des enfants, qui leur posent des questions, qui les accompagnent, qui leur permettent de grandir, qui leur permettent de s'épanouir. C'est ces gamins-là qu'on accompagne. Moi, je comprends même pas. On a un rôle d'utilité publique. On devrait être mis en avant. On devrait avoir tous les moyens du monde. Parce qu'on fait plus que des fois même que les services sociaux. Et là, on veut nous écraser d'une manière humiliante. Pourquoi? Ça vous dérange que le manager général du club que je suis s'appelle Ismaël Badawi? C'est ça qui dérange. Mais je suis français, je suis né en France, j'ai un bac plus 5, je suis chef d'entreprise. Vous voulez que je vous dise quoi de plus? Je paye des impôts en France, je paye des charges sociales. Vous croyez que je sors de la rue et qu'hier j'étais en prison, aujourd'hui je prends un club de foot pour m'enrichir. Je suis quasiment bénévole, moi, au sein du club de foot. Donc, faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens comme ça dans les clubs de foot. Il y a de la compétence, il y a tout. Faut nous accompagner. Faut arrêter de croire qu'on est, on est de la vermine et on va poser un genou au sol avec ce genre de personnes qui prennent des décisions parce qu'ils font que de la politique.
Ils font de la politique, Ismaël. Il y a un truc qui, est-ce que dans tous les sports à Sartrouville, c'est comment?
Je vais vous donner un exemple qui est frappant, ça va vous parler. J'ai un contre eux parce que s'ils l'ont obtenu, tant mieux pour eux. Et je veux pas faire du comparatif pour essayer de se dire.
C'est intéressant de savoir un peu aussi sur, sur d'autres disciplines sportives.
Je te donne une association pour te donner le comparatif. Le judo, qui a fini, qui a fourni beaucoup de bons sportifs chez nous.
En judo,
ils leur ont donné un F5 comme bureau et comme club. F5 versus. Un bungalow de 10 mètres carrés, faites la comparatif et vous comprendrez que c'est inadmissible. On n'est pas des.
Et qui c'est qui gère le judo?
Ouais. Allez regarder l'organigramme et peut-être qu'on comprendra un peu plus.
Ouais, parce que après, c'est sûr que tu prends le football, c'est un sport qui est très très médiatisé. Et quand tu regardes l'affaire Aminata, l'affaire Amraoui, tu sens que nous, en ce moment, on dérange beaucoup, que ça soit les clubs amateurs ou que ça soit le problème qu'il y a eu sur ça. Tu sens que les médias cherchent à nous, même eux.
C'est l'attaque des quartiers.
Je pense pas parce que là on est dans un contexte. On est là que vu quand j'écoute Ismaël, on est dans un contexte politique. Et je pense qu'on veut pas voir le foot avancer et grandir parce que dans le football, il y a beaucoup de gens. Aujourd'hui la personne phare du football mondial, celui qui a, en termes d'image mondiale qu'on a, c'est Zidane.
Bien sûr.
Voilà, ce qu'il a fait Zidane. Pourtant, c'est quelqu'un qui vient de Septem. Ouais. Et quand tu vois aujourd'hui, est-ce qu'on veut que cette jeunesse devienne comme Zidane ou non? On va déranger. Alors le problème, pour moi, le problème, il se situe plus là au niveau politique. On les laisse se démerder, on les laisse dans la merde. Comme ça, ils avancent pas. Et là, ils sont contents.
Par rapport à cette histoire, moi, je vais lancer un message aussi au maire de Sartrouville. S'il a besoin de se justifier et de s'expliquer sur l'antenne de Beurre FM, ben écoutez, il est le bienvenu puisque le droit de réponse est accordé à tout le monde, bien sûr.
Et moi, j'ai juste une question pour vous. Comment les parents ont appris cette nouvelle?
En fait, pour vous donner l'historique, fin d'année, mois de juin, comme on le fait chaque année, on sollicite les élus au maire pour venir faire un point sur la saison qui vient de s'écouler, nos succès, nos difficultés, et se projeter sur l'avenir et la saison suivante. Pour voir comment on peut améliorer les choses. Il faut savoir qu'on les a sollicités début juin. Les élus, je parle. Il faut bien faire une distinction entre le service des sports et les élus. Les élus, ce sont ceux qui ont été élus démocratiquement, en tout cas
qui par
le
biais
du maire, et qui prennent les décisions. Le service des sports, ce sont des salariés, des fonctionnaires de la mairie qui exécutent. D'accord ? Donc nous, on prend rendez-vous avec les élus. Ils ne nous répondent pas. On les relance mi-juin. Ils ne nous répondent toujours pas. Fin juin, on reçoit un mail du service des sports qui nous donne rendez-vous le 6 juillet pour une réunion. Bon, nous on est bien éduqués, on est courtois, on nous invite, on vient et on répond immédiatement.
Bien sûr.
Donc on y va. À cette réunion, tous les sujets de la vie courante et de la gestion courante du club sont évoqués. Et ensuite, en fin d'entretien, nous est balancé comme ça de but en blanc, sans concertation aucune. Bon, en fait, on a une annonce à vous dire. Vous quittez vos locaux du stade Ningesser à Sartrouville. Ok, très bien. Pour faire quoi? Et vous allez être relogé dans deux préfabriqués, deux petits bungalows de 10 mètres carrés à l'entrée du stade Gagan. C'est un parc, hein. C'est un parc non sécurisé, non éclairé. C'est-à-dire le soir, il y a pas de lumière. Je veux dire, il y a pas plus manque de respect que ça. Je veux dire, si on veut faire passer un message, lire entre les lignes et comprendre des messages, je pense qu'il y a pas plus clair comme message et comme message percutant surtout. Il y a pas plus dégradant. Parce qu'en fait, faut comprendre l'image. Tous ceux qui sont pas loin, allez voir. C'est quoi nos bureaux qu'on a réaménagés? On a acheté une télé. Vous savez ce qu'on a fait? On a fait une petite cagnotte entre parents pour aller acheter des canapés sur le bon coin. Pour qu'on puisse avoir un coin canapé, pour que les parents, quand ils viennent, on a mis la fibre. Pour que les parents, ils viennent faire du télétravail quand ils déposent leurs enfants.
C'est magnifique, ça. Bah oui.
Ça va plus loin. On a mis une buvette. On a mis une machine à café à disposition des parents. On a mis une télé. On a mis une télé. Des fois, quand il y a des parents, ils ont plusieurs enfants. Ils ont un enfant en bas âge. On leur met les dessins animés. Ils ont les dessins animés, ils peuvent faire des dessins, et on a le coloriage, enfin, on a tout. Et en fait, en réalité, on a ça, une vraie maison chaleureuse, Un jour, on ferme la porte, on dit aller dans le préfabriqué au bout du jardin. Et c'est un peu ça l'image. C'est ça qui nous révolte et qui a révolté les parents.
Très bien, merci. On va marquer une première pause dans cette émission. Vraiment, c'est un sujet très, très passionnant. On découvre aujourd'hui la France aux deux visages. Espérons seulement que les gens finiront par revenir à la raison. Parce que les gamins ont besoin de ces structures pour leur développement personnel.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Foot de sport sur Beurre FM.
Bah, MJ, c'est à vous. On revient sur le plateau de Foot de sport en compagnie, bien sûr, de Ismaël Badawi. Il y a Boula, il y a Foudiel, Kamel qui est arrivé. Je voudrais quand même aller plus loin parce que Ismaël, tu as été confronté aux élus ou à l'élu qui en veut au club. Tu as eu un face-à-face avec lui.
Alors oui,
j'ai... Et puis avec une phrase qui est sortie de sa bouche qui aujourd'hui risque de faire beaucoup de bruit en France.
Moi, ce qui me surprend, parce qu'on cherche à savoir, donc forcément, en tant que représentant de club, mon rôle, c'est d'aller rencontrer les élus, ce qui est normal. C'est avec eux qu'on travaille main dans la main. Quand j'ai été le voir, avec toute mon innocence, hein, d'un dirigeant de club amateur, voulant aider les jeunes, hein, c'est tout. Ça va pas plus loin, nous. Dans cet entretien, il m'a dit, texto, il m'a dit, on m'a remonté les informations des gens qui m'interpellent dans la rue, me disant... Il n'y a pas assez de diversité dans le club de foot. Bon, je demande des explications. Ça veut dire quoi la diversité pour vous? On m'a dit qu'il n'y a pas assez de diversité. Bon, il bafouille, hein. Il bégaye, il bafouille, il voit bien que...
Bah, venez constater de vous-même sur place.
En fait, je lui dis, mais vous parlez des enfants, là. Je lui dis, c'est malheureux parce qu'il était dans le foot avant lui. Il a même été président du club. Je lui dis, mais vous vous rendez compte qu'un club de foot... Chez les enfants, il n'y a pas de détection. Ce n'est pas de la compétition. On prend tout le monde. Ça, vous le savez, ça, dans un club de foot, on prend tout le monde. Vous venez avec votre enfant, il a 8 ans, il veut jouer au foot. Vous venez, vous l'inscrivez. C'est aussi simple que ça.
Ismaël, je vous dis qu'il était président avant.
Il était président du club pendant...
De Sartrouville.
Ouais.
Okay. Est-ce que tu penses qu'il a des comptes à régler?
J'étais trop jeune, il a été président de club. La seule chose que je peux dire, Boula, c'est qu'il a été président une année où... À titre d'exemple, il a ramené en équipe première l'illustre Sarr Boubacar, l'ancien grand joueur du PSG.
Oui,
ça te donne le niveau des moyens qu'on pouvait avoir à l'époque à Sartrouville.
Quand même, oui.
Dans le club,
ben oui.
Qu'une star comme ça vienne entraîner. Oui. À l'époque, c'était en district.
Oui.
C'était pas en ligue ni au niveau national. Je parle pas d'une CFA ou du National 2, National 3 ou d'une R1. On parle d'un club de district au niveau départemental. Ramener une star comme ça, ça montre ce qui a été mis sur la table.
Là, il n'avait pas un problème de diversité, là, quand il a ramené ça à Boubacar. Ça veut dire qu'en termes d'image, il avait besoin de cette image pour essayer de vendre un peu son club.
Ça va plus loin que ça.
Il faut savoir. L'image, quand il parle de termes d'image au niveau des enfants et quand il prend ça à Boubacar, c'est de. Je ne sais pas, moi. Pour moi, il y a un calcul médiatique.
Politique derrière.
Voilà, exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu regardes son statut en tant que président, aujourd'hui son statut de truc, aujourd'hui il a une autre casquette politique. Est-ce que le maire, est-ce que tu penses que c'est lui qui pense comme ça ou c'est son système politique autour de lui qui pense comme ça?
Pour moi, c'est tout le système qui pense comme ça.
Voilà.
Parce qu'à un moment donné, j'invite tous ceux qui nous écoutent, qui sont pas loin de se retrouver, à venir le mercredi après-midi au stade Nagesser à constater par eux-mêmes la tranche d'âge 4 ans, 8 ans. Et vous allez voir que ce qu'il y a sur le terrain, c'est ce qu'il y a dans la ville. C'est représentatif de notre société d'aujourd'hui, ni plus ni moins. C'est des enfants qui viennent s'inscrire pour jouer au foot. Il n'y a pas de détection. Et en plus, je vais aller plus loin. Comment c'est malhonnête de parler comme ça et c'est même discriminant et rabaissant. Parce que, allez, si on monte de catégorie et qu'on se dit, y a moins de diversité. Mais quand là, l'équipe de France est championne du monde et que tout le monde est en train de faire la fête sur les Champs-Élysées, en train de dire youpi, on est champion du monde, on est la meilleure équipe du monde et que la France brille à travers le monde et dans tous les continents, mais que 70% ou 80%, il y a une stat qui était sortie de l'équipe de France championne du monde en Russie, sont issus des banlieues, ça dérange plus personne. Quand la star incontestée du football français aujourd'hui qui est Mbappé à des origines étrangères, ça dérange plus personne.
Et Karim Benzema. Et en plus,
Karim Benzema.
Et en plus, qu'il faut pas oublier que Kylian, il est dans un conflit d'intérêts. Mais je pense que Kylian, il a pas oublié d'où il vient. C'est-à-dire qu'on est dans un conflit où ce jeune de banlieue, où sa mère est algérienne, son père est camerounais, aujourd'hui, il défend les intérêts. Mais ses intérêts, je pense pas que c'est pour son histoire personnelle. C'est pour son histoire au niveau que cet argent doit être reversé. Et je pense qu'il est plus dans cette réflexion-là pour défendre ce côté amateur et ce côté de pays où il n'y a pas d'argent, où il n'y a pas d'argent. Parce que je pense que dans son image, il a quelque chose d'autre aussi à construire. Aussi, tu sens pas que c'est le joueur qui est intéressé. Il se bat pour un truc. Il se bat contre une fédé. Mais là, il est pas là avec les mecs de quartier de banlieue qui jouent l'équipe de France, qui sont là. Ils se taisent et ils disent là, par contre, il veut savoir cet argent va où et on fait quoi avec cet argent.
D'où vient Kylian Mbappé?
De Bondy.
D'où vient Karim Benzema?
De
Bron. C'est la banlieue lyonnaise.
Voilà.
Ok. Les meilleurs joueurs aujourd'hui au niveau national et international, parce qu'ils font partie des meilleurs joueurs mondiaux aujourd'hui, sont dans le top 10 de toute façon les deux, pour ne pas dire numéro 1 pour Karim Benzema, mais ils viennent de ces quartiers-là, c'est-à-dire qu'ils viennent des mêmes clubs que nous aujourd'hui, c'est-à-dire que le futur Benzema, le futur Mbappé, le futur Zizou, il est peut-être aujourd'hui chez moi à Sartrouville, et on est en train de l'éduquer et de le faire grandir dans des conditions catastrophiques, sans lien, on nous brutalise de cette manière-là alors qu'on fait que du football. On a l'impression qu'on est en train de... Non, on ne fait pas de politique en plus.
Quand tu m'expliques, ça, Ismaël, tu reviens, tu vois, regarde, quand tu reviens, quand tu vois les lois, comment elles ont été faites pour les clubs amateurs. Quand tu regardes que les lois, elles ont été faites il y a 20 ans. Aujourd'hui, tu reverses de l'argent à un club amateur qui n'existait pas à l'époque. Ce qui veut dire par là, c'est quelque part, ils avaient conscience que les clubs amateurs travaillaient et fallait la reverser. Je veux dire, la mentalité qu'il y a aujourd'hui au niveau politique. T'as deux mentalités politiques. T'as la montée pour faire avancer les quartiers, les banlieues. Ils ont accepté de donner de l'argent dans les clubs amateurs. Ça, ils l'ont voté et c'est une loi mondiale. C'est une loi mondiale. Et quand tu regardes aujourd'hui, on essaie de saboter ce système. Et pourquoi on le sabote? Parce qu'on veut pas que ça grandisse, on veut pas que ça prend une ampleur d'éducation à travers le sport, à travers le football, surtout quand tu fais l'aide aux devoirs ou quoi que ce soit. C'est pas votre rôle en tant qu'entraîneur, en tant qu'éducateur sportif, c'est pas votre rôle. Vous poussez plus dans votre rôle et c'est ça qui dérange, je pense. C'est ça qui dérange parce que quelque part vous donnez des repères et des valeurs et une éducation et une ligne de conduite. Eux, quelque part, ils veulent pas.
Un gamin qui a 12 ans. Je te raconte des faits. Quand un gamin qui a 12 ans qui vient le jour de match, qui a pas mangé. Et après, tu creuses un peu, tu vois le gamin, il te dit j'ai faim, mais il a pas mangé, pas les moyens. D'accord? Et c'est des choses qui arrivent. Tu vois un autre gamin qui a 10 ans qui vient, ses chaussures sont trouées. Et que l'éducateur s'approche de lui, il le prend à part, il dit pourquoi tu. J'ai pas les moyens, ma maman peut pas m'acheter des nouvelles chaussures. L'éducateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va à Decathlon, il m'achète une paire de crampons. En fait, la vie de nos clubs amateurs, ce n'est que ça, ce n'est que ces petites histoires-là où au quotidien on aide les gamins surtout. Boula, t'es éducateur, ton enfant, tu vois un de tes joueurs, il a 10 ans, il peut pas s'acheter une nouvelle paire de chaussures. Avant d'être éducateur, t'es un homme, t'es peut-être un père de famille, t'as un cœur. Tu laisses pas des gamins comme ça jouer sans chaussures. Ou un gamin qui a pas mangé, ou qui a pas eu le temps de manger, qui a pas les moyens de manger. Et c'est des choses qui arrivent. Qui sont pas bons à l'école, qui ont des retards, qui ont des difficultés. Tu vois, tu peux pas laisser. Parce qu'en fait, en réalité, je vais te raconter l'histoire d'un gamin l'année dernière qui avait 13 ans chez nous. En fait, si tu veux, il avait un problème de comportement. Il avait des excès de colère. Premier réflexe, si t'es but en blanc, tu te dis, tu t'es mal comporté, t'es viré ou t'es puni. Mais en fait, c'est pas ça notre rôle, c'est de creuser. Pourquoi ce gamin, il a des excès de colère? Et en fait, on a découvert, grâce au club de foot, c'est un gamin qui était bipolaire. Il le faisait même pas exprès, c'était pas de sa faute. Depuis, il est soigné. Et ça va beaucoup mieux. Il est épanoui au foot. D'accord? Si on n'a pas les moyens d'avoir des éducateurs compétents, diplômés, qu'on se recule et cette pédagogie, tu perds un gamin, là. Il est bipolaire, tu le jettes à la rue, tu fais comment? Tu diras, tu t'es mal comporté, t'as insulté un de tes copains, t'es viré, tu reviens, tu remets plus un pied au foot. Qu'est-ce que tu fais? Tu crées un nouveau délinquant?
Ah ouais, mais, sûr.
Et ça, c'est des histoires de nos clubs amateurs.
Concrètement, aujourd'hui, est-ce que il y aura quand même une prise de conscience ou bien vous allez mettre en pratique ce que j'appellerais un plan B pour la sauvegarde de tous ces gamins. C'est quand même une structure énorme, c'est Ismaël.
Faut que tu saches que si je suis là aujourd'hui en train d'en parler, on arrive au bout d'un cheminement qui nous a conduit à faire éclater au grand jour. Mais en fait, cette histoire, c'est que le reflet visible de tout ce qui se passe sous l'eau et que personne ne voit. Et ça dure depuis des mois et des années. C'est des petites mesquineries au quotidien pour nous freiner, pour nous ralentir, pour nous éviter de grandir. Et en fait, c'est tout ça que nous, on garde pour nous, qu'on diffuse pas aux parents, parce que les parents, ils viennent emmener leurs enfants, on n'a pas à les mêler à tous ces problèmes. Et d'ailleurs, on a été élus pour diriger le club, donc on ne doit pas les mêler à ça. Et à un moment donné, on a pris à partie tous les parents, il y a quelques jours, en sortant une pétition et en sortant ce communiqué officiel sur les réseaux sociaux, qui a fait exploser de colère tous les parents, y compris Kamel, qui est un parent d'un joueur ici présent. Ça fait exploser de colère tous les parents, parce qu'ils se sont sentis tous humiliés. Et comment vous faites ça pour nous déjà, et pour nos parents, et pour nos enfants? C'est pour ça qu'on a fait exploser le truc.
Alors, je voudrais également rajouter un élément... mon cher Ismaël, c'est justement il existe des structures en France. Il y a au niveau de la 3F, tout le monde sait que il y a une section amateur. Je ne sais pas moi, est-ce que vous avez sollicité Jamal Sandjak, qui est quand même vice-président de la Fédération française de football et qui justement qui gère le football amateur. J'aimerais bien que Jamal soit contacté.
Que tu connais bien.
Ben oui.
Que je connais bien. Avec De Paris, ils font un super travail. Il faut savoir une chose, c'est que chacun son champ d'intervention.
D'accord.
La Ligue de Paris, malheureusement, n'a pas autorité publique. Il ne peut pas intervenir comme ça auprès des mairies pour leur dire vous faites ça, vous faites ça. Ouais. Ils sont impuissants face à ça. Ils sont impuissants. C'est un sujet qui a déjà été évoqué à de nombreuses reprises et moi, lors de mes diplômes.
Ismaël, je te laisse de te couper, mais quand tu dis ils sont impuissants, quand tu es président de la Ligue de Paris, ça veut dire que tu as été élu par des présidents de tous les clubs amateurs. J'estime que, politiquement, quand tu as des postes comme ça, président de la Ligue de Paris, surtout dans le problème que tu as, en plus de ça, c'est quelqu'un qui siège à la Fédé, qui est à la Fédé, je pense qu'il peut intervenir.
Politiquement,
il peut intervenir ou en parler à Noël Le Graët. Je pense qu'il est, c'est le mieux peut passer à parler à Noël Le Graët, qui est quelqu'un de très ouvert, Noël. Et maintenant, il y a un truc qu'il faut savoir. Moi, je pense que c'est plus Jamel. Et en plus de ça, il a été élu avec combien de voix au niveau de la Ligue de Paris. Je pense que c'est un mec qui a été élu haut la main. Ça veut dire que quelque part, il y a un travail de fait en Ligue de Paris et que la force de Jamel, c'est que c'est quelqu'un dans le monde du football et dans le monde du professionnel, il est très écouté. Aujourd'hui, ce problème-là, il y a toute une jeunesse qui est en otage avec
ce problème risque de devenir national, parce que aujourd'hui c'est le club d'Ismaël, demain ça peut être un club à Nîmes, ça peut être un club du côté de Bordeaux, ça peut être en Bretagne, ça peut être à Strasbourg.
Tu parles de demain, moi je te parle d'aujourd'hui. Le cas dans plein d'autres clubs qui sont écrasés par la municipalité.
D'accord.
Là où c'est grave, c'est qu'avant t'as des problèmes dans les clubs amateurs.
Oui, bien sûr, oui.
T'as un groupe qui veut prendre le club, t'as un autre groupe qui veut prendre le club. Il y a des problèmes comme ça. Là, je sens que la mairie n'est pas d'accord avec l'image des gens qui gèrent le club. C'est peut-être pour ça qu'ils lâchent. Ils veulent peut-être d'autres gens. Il y a peut-être un système où ils veulent glisser quelqu'un.
Oui, parce qu'il faut que ce soit à leur image. Voilà. Oui, c'est ça. Oui,
pour mieux leur donner des budgets. Cette stratégie, je la connais. Comme l'autre, il était ancien président. C'est une stratégie, genre, je veux pas te dire normale, mais quelque part, ils font un calcul, mais eux, ils travaillent. Oui. Là, t'as pas affaire à des
bénévoles.
Non, mais t'as pas affaire à des gens qui sont des voyous, des trucs. Il est pas géré. Il est géré par des gens qui sont stables dans leur vie, qui ont des valeurs, qui ont des règles, tout ça. Alors, c'est quoi qui les dérange le plus? Est-ce que c'est Ismaël? Si Ismaël, il s'appellerait Laurent Boudaoui, peut-être les choses se changeront. Parce que c'est facile aujourd'hui. Ouais. Moi, j'ai une expression. C'est facile pour moi de dire les choses. Parce que moi, j'appartiens à personne. Ismaël, je l'ai connu en tant que, je connais bien son papa. Il a très bien été éduqué. Quand je regarde, pour un footballeur, au niveau de ses études, il tient la route. Au niveau d'éducateur. Et en plus de ça, il rend service à la mairie, donne du temps dans un club amateur. Et l'autre, le maire, quand il dort chez lui, il dit, putain, j'ai Ismaël, heureusement que je l'ai. Ouais. Mais est-ce qu'il calcule comme ça?
il calcule pas comme ça, parce que la ville de Sartrouville, c'est une grosse ville, c'est pas une petite ville quand même.
Confirme. C'est la deuxième ville des Yvelines.
La deuxième ville des Yvelines, dans leurs problèmes. Et ce problème-là, c'est que même la mairie sont protégés au niveau médiatique, parce que si cet article il va dans les médias ou quoi que ce soit, mais le problème c'est que les médias en ce moment ils nous mettent que du baratin, que de la tchatche, ils sont pas là pour nous dire réellement ce qui se passe.
Très bien, on va marquer une dernière pause avant la suite et la fin de cette émission.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM jusqu'à 20h. Foot de sport sur Beurre FM.
Allez, 10 minutes pour terminer cette émission. Et comme on l'a dit, eh ben, les premières victimes et celles qui ne s'y attendaient pas, ce sont bien sûr les enfants. Et à travers les enfants, ceux qui les représentent le mieux, ce sont leurs parents. Ben, justement, j'ai ici Kamel qui est devant moi. Pardon, voilà. Kamel, je vais te poser la question. Quand tu as su pour cette affaire, quelle a été ta première réaction?
Bah, Mohan, t'as tout dit, en fait, hein. Ce qui rend malheureux, enfin, ça va rendre malheureux les enfants. Automatiquement, nous, ça va nous rendre malheureux. Donc, on est obligé d'agir. Et, heureusement que le club, justement, il a organisé une pétition, pour essayer de sauver le club ou le sauver. Et puis, on est là, on les soutient, on est là.
Alors, en fait, pourquoi le maire de Sartrouville refuse de vous recevoir? Si t'es un élu, il a été élu par les citoyens. En tant que citoyen, j'ai le droit de prendre rendez-vous avec mon maire. Pourquoi mon maire refuse de me recevoir?
Alors là, t'es parti à l'instant suprême. Tu m'as dit le maire. Mais avant de commencer par le maire, l'élu au sport qui est là pour nous, pour les institutions. Pourquoi déjà lui, il ne nous reçoit pas? Commençons par l'élu, après on ira voir le maire.
Non, mais comme on dit, il vaut mieux faire appel au bon Dieu qu'à ses saints. Donc autant taper en haut, direct.
Ce qu'on essaie de faire, mais personne ne reçoit.
Oui, ça veut dire qu'il y a un refus. Pourquoi? Question simple. Tu t'appelles Ismaël, c'est ça?
Ouais.
Bah, dis-le, tu t'appelles Ismaël, donc je ne reçois pas Ismaël. Mais si tu t'appelais Michel, on va t'ouvrir le portail.
Bah, aujourd'hui, la manière dont se comporte la mairie, la manière dont se comportent les élus, et notamment l'élu au sport, je voulais pas rentrer là-dedans. Je voulais pas rentrer là-dedans parce que moi je suis là pour faire du foot, je suis là pour éduquer les enfants,
oui, bien
apprendre
sûr
à jouer au foot. En plus on aime le foot, c'est notre passion, on adore ça, on adore être sur les terrains. J'étais encore sur les terrains cet après-midi, hier. On adore ça, je voulais pas rentrer là-dedans, je déteste faire de la politique parce que c'est un milieu que je vomis. Donc je déteste ça. Mais en fait, par leur comportement, ils t'obligent à rentrer là-dedans et tu dis mais pourquoi alors? Pourquoi vous comportez comme ça? Pourquoi? Excusez-moi du terme, hein. Mais pourquoi on est dans une maison? Vous nous sortez d'une maison pour nous envoyer au fond du jardin dans une niche. Ouais. C'est exactement l'image. Parce que le comparatif entre nos locaux actuels et les bungalows, c'est l'équivalent entre une maison et une niche au fond du jardin.
Oui. Ah, voilà, bungalow de chantier, je précise. Hein.
Ouais, c'est des bungalows de chantier.
Il n'y a pas de toilette.
Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de lumière le soir. À partir de 19h, quand il va faire nuit, on ne peut plus travailler. C'est dans un parc, il y a eu des agressions dans ce parc-là. Donc nous, notre secrétariat, elle est tenue par des femmes. Elles ne veulent pas mettre un pied là-bas parce qu'elles ont peur le soir. Il n'y a pas de lumière. On ne peut même pas recevoir de toute façon. C'est trop petit, c'est exigu. On ne peut pas faire une réunion. Les enfants, on ne peut plus les recevoir. Je veux dire qu'on perd tout. On perd toute l'âme du club, on le perd. On ne peut plus recevoir plus rien. C'est-à-dire qu'en fait, notre club de foot,
c'est. Niveau?
On est au niveau, l'équipe première est au niveau régional.
R3. Et les gamins?
Et les gamins, les gamins, il n'y a pas de niveau quand on est jusqu'en U12, U13, parce que ça reste du football, c'est de la préformation. La préformation, il n'y a pas de niveau, c'est des challenges faits par les départements. Mais c'est bien, c'est dans l'éveil du football, de l'apprentissage.
Ce qui est bien dans ce club-là, c'est que vous recevez tous les gamins. Quand je vois des clubs amateurs aujourd'hui, des fois, il n'y a pas de place dans les clubs, parce qu'ils font de l'élite. Parce que il y a un sujet très très important.
C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet.
Ben oui, parce que quand tu vois les parents qui arrivent avec normalement, je pense que dans tous les clubs amateurs, ils devraient avoir un club élite et un club loisir. Moi, j'ai du mal à comprendre que des fois, il y a un gamin, ses parents viennent et il a envie de jouer au foot, d'avoir un football loisir et football élite. Dans deux clubs, ça n'existe pas en France. Je veux dire, ça n'existe pas dans les clubs. On dit non, il n'y a plus de place.
Non, on reçoit tout le monde.
Il y a des clubs, ils ont un quota de joueurs que du talent. Voilà, ils ont un quota de joueurs.
On est la seule association.
Aujourd'hui, les clubs de football, parce que c'est bien des fois tirer sur, on tire sur des, mais il y a des systèmes de football dans les clubs amateurs Et ça, quand tu me parles de Jamel Sanjak, je pense que cette question, c'est plus la gestion de la Ligue de Paris que la gestion de la Ligue, parce que lui, il est plus proche des clubs amateurs. Moi, je trouve que il devrait imposer à tous les clubs, et ce qui est bien dans vous, en faisant pas de l'élite, tu connais très bien le CMA Aubervilliers, on n'a pas fait d'élite, tous les gamins avaient le droit de signer au football. Tu regardes la jeunesse d'Aubert, eux, ils ont de l'élite, mais il y a des joueurs qui passeront pas. Ils peuvent pas aller dans, ils peuvent pas. Ça veut dire que même s'il a des qualités et il correspond pas à les qualités du club, ils vont lui dire non. La différence, c'est que le CMA, ils ont jamais fait d'élite. Ils ont fait plus du football loisir et tout le monde pouvait jouer au foot. Et ce qui est dommage pour vous, comme vous avez 800 gamins, et je pense que ils peuvent vous dire merci de recevoir tous ces gamins. Parce qu'il y a pas, c'est pas donné à tous les clubs amateurs.
Attends. Moi, Boula, excuse-moi, en tant que parent, il y a 3-4 ans, c'est ça, quand vous êtes arrivé. Il y a 3 ans, et réunion, projet sportif. Pour l'instant, tableau, il est plein. C'est-à-dire tous l'équipe première, elle est montée, les U14, elles sont montées. Enfin, je sais pas, nos enfants, ils prennent du plaisir, ils s'épanouissent, ils progressent, ils vivent leur passion. Donc, enfin, voilà, quoi, c'est
et
pas...
Et ils s'affirment.
Il s'affirme, oui, il s'impose. Après, attention, nos enfants, c'est pas des Mbappé, c'est pas des futurs Zidane, quoi. C'est, on est
ils
là pour.
Prennent du plaisir sur le terrain.
Voilà.
Plus c'est un bien-être déjà de le. C'est un bien-être de le fait de pratiquer
voilà,
le foot.
C'est important. Bah oui. Parce que nous, des fois, on est dans l'élite. On est dans le professionnalisme. On est dans l'élite. Moi, je m'occupe de joueurs et je me suis occupé de pas mal de joueurs. J'en ai fait monter pas mal, mais. Moi, je suis pas l'agent qui. Moi, je regarde quand même ce qui se passe en dessous. Et ce qui se passe en dessous, moi, pour moi, il y a des incohérences au niveau des clubs amateurs. Parce que la formation, c'est bien, mais ceux qui fabriquent les meilleurs joueurs du football en France, dans l'Île-de-France, c'est pas les clubs pros. Ouais, parce que quand ils arrivent, les clubs pros, ils arrivent, le joueur, il est prêt à 12 ans ou 13 ans.
Ouais, oui,
c'est-à-dire qu'on l'a préparé de 7 ans jusqu'à 12 ans, 13 ans. C'est pour ça que la loi, à l'époque de Marie-Georges Buffet, Ils ont envoyé un petit peu d'argent au club amateur. Voilà, c'est les récompenses du travail qu'ils ont mis entre cette. Ça veut dire qu'ils sont impliqués dans ça, les clubs pro. Et le pire, c'est que je viens d'apprendre cet après-midi que PSG touchait aussi un quota sur le joueur aussi. S'il est transféré, c'est eux qui ont le plus gros quota. Oui. C'est toujours les clubs pro qui en profitent. Ouais. Mais eux, ce qu'ils n'ont pas compris, que ça soit la Fédé ou les instances football de la FIFA, faut les respecter. Entre 7 ans et 12 ans, ouais. On te ramène un joueur tout fait, tout prêt. T'as juste 2 ans de formation. Va te taper les 8-10 piges, 8-10 ans dans la formation. Et c'est là qu'on doit, à un moment donné, taper le doigt où il est, ouais. Au niveau des clubs amateurs. Ah, parce que le club amateur, ouais. C'est ça. Pour moi, le club amateur, c'est pas 12 ans, 13 ans. C'est 8 ans jusqu'à 13 ans à préparer ce joueur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un système de recruteurs. Ils arrivent. Non, lui, c'est pas terrible, lui, c'est pas terrible. Et en plus de ça, tu vois le pourcentage de joueurs qui forment dans les clubs pro, ils réussissent pas tous.
Bah, on le sait, de toute façon, généralement, ils prennent un ou deux par promotion. Oui, il faut dire.
Moi, j'ai juste une dernière question avant la fin de l'émission. Grosso modo, si quand on écoute bien l'histoire et cette triste histoire, parce que c'est une histoire hallucinante pour moi et pour un parent, pour vous, pour toute la ville de Sartrouville, j'aimerais juste savoir une seule chose. Selon vous, selon cette histoire, selon ce qui s'est passé, du début jusqu'à maintenant, vous ne pensez pas que la mairie essaye que vous démissionnez de votre poste et juste derrière, il y a des personnes qui sont prêtes pour prendre l'association. Est-ce que c'est votre ressenti en tant que dirigeant et en tant que parent?
Alors, mon ressenti, c'est que si la mairie de Sartrouville vient avec un bulldozer ou toute une armée de bulldozers au stade pour nous déloger, ils n'y arriveront pas. Pourquoi? Parce que nous, on fonctionne avec le cœur, la bienveillance, l'empathie et la compétence. On n'est pas là pour s'enrichir, on perd du temps, on perd de l'argent. Moi, à titre personnel, c'est ce qui se passe dans ce club. J'aurais pu profiter de mon expérience de joueur et d'entraîneur pour aller dans des clubs nettement supérieurs à celui qui est celui de Sartrouville, dans des divisions nettement supérieures. Vous voulez pas en être témoin? J'ai décidé de rester dans mon quartier, dans mon quartier, là où j'ai grandi, là où j'ai joué au foot dans les cités. On a fait des interquartiers, donc je me dis, je rentre chez moi, j'aide les jeunes. pour améliorer ce club-là, leur donner de la qualité. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai investi tout de suite chez les catégories de jeunes. J'ai ramené que des anciens joueurs diplômés du BEF, l'entraîneur, le diplôme d'entraîneur UEFA A. Donc c'est ce qu'il y a de plus élevé au niveau amateur, ce qui permet d'avoir de la compétence. Donc en réalité, comme je sais que je suis dans ma...
Ces personnes-là ne sont pas à bout, selon toi?
Alors je sais pas, en tout cas moi, il va falloir qu'ils se lèvent de bonne heure pour me décourager, parce qu'en réalité, comme je sais que je suis droit dans mes pompes, je suis loyal et je suis sincère dans mes intentions, et le plus important c'est d'être sincère dans mes intentions, à partir de là, il y a personne qui me fait peur et qui va nous arrêter. Et surtout, je suis pas tout seul en plus. J'ai une direction avec moi qui est très forte et très solide, et j'ai aussi, et là on l'a vu depuis quelques jours, on a aussi tous les parents qui nous suivent, et il y en a même un qui s'est déplacé aujourd'hui. Qui s'est déplacé aujourd'hui pour témoigner au nom des parents, parce qu'on a vu l'élan de solidarité. Je ne pensais pas que c'était aussi puissant.
Et puis juste avant de finir l'émission, il nous reste de petites minutes pour les personnes qui étaient du côté du Standard. Je suis désolé, je n'ai pas pu prendre les appels parce que tout simplement le sujet est tellement important qu'il était aussi de notre ressort de laisser la parole aux acteurs de cette situation, aux acteurs de ce club. Et bien entendu, Faudil, il reviendra dans la matinale avec Kim et Mona, voilà. Et puis Ismaël bien sûr qui va intervenir par téléphone. Au niveau du Standard, je peux vous reprendre dès dimanche prochain si vous souhaitez que je continue à parler du football amateur, parce que tel que c'est parti aujourd'hui, Ismaël me l'a bien expliqué, ce n'est pas un seul club, mais c'est plusieurs clubs malheureusement aujourd'hui qui sont concernés en France. Un dernier mot peut-être avant de se quitter, puisqu'on arrive vraiment à la fin là.
Bon, en tout cas, merci pour cette émission, Mohan. Merci Ismaël. Je te donne rendez-vous pendant la matinale, espérant te recevoir. Ouais. Et espérant quand on te recevra, il y aura de bonnes nouvelles quand même.
Mais ouais. Kamel, alors on dit...
Alors moi, j'appelle tout le monde. Hein. Tout le monde a signé la pétition qu'il y a sur le net. Donc, touche pas à mon club de foot. Touche pas à mon club de foot, je le répète deux fois. Une troisième fois aussi, Boula.
Oh, tu peux, hein, Kamel.
Je touche pas à mon club de foot, change.org. Ouais. Et sinon, il y a le Facebook.
Vous avez le lien.
Voilà, il y a le lien directement. L'ES Sartrouville, l'Espérance sportive de Sartrouville.
Je peux finir un dernier mot?
Oui, bien sûr, oui, ça va encore.
Merci beaucoup de nous donner la parole. Et sachez une chose, le fait que vous nous donnez la parole publique aujourd'hui permet une chose qui est très importante, ça nous permet de nous protéger. Parce que si on reste dans l'anonymat, la machine politique des mairies nous écrase et on n'a aucun poids là-dessus et on peut rien faire. Le fait de médiatiser les choses et de la rendre publique aux yeux des parents, aux yeux des médias radio et presse écrite permet aussi de nous protéger, et parce que les mairies détestent ça, le bruit, et c'est la seule manière de se faire entendre et aussi de se protéger, pas de se faire écraser par cette machine.
Voilà, et pour finir, juste pour vous dire Ismaël, que à travers Beurre FM, que ce soit sur les réseaux sociaux, via également le net, sans oublier que cette émission est rediffusée en semaine. Nous avons une vingtaine de fréquences. Avec le DAB, on arrive à 42 fréquences. Donc, à travers la France, ce message est passé pour l'ensemble des clubs amateurs. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. À 22h, vous allez retrouver un hommage spécial à Hasni avec DJ Kim.